une passion pour Jésus, une vie consacrée à Jésus. On en a des dizaines de personnes, des milliers de gens qui ont donné toute leur vie pour Jésus. On connaît des histoires avec des missionnaires qui ont tout consacré. Je disais mercredi à la prière à Claudine, qui est dans la salle là, Claudine, qu'on a présentée la fois passée, donc elle est... Enfin, écoute, on va refaire la présentation tantôt, hein, voilà. Et je disais à Claudine, qui est quand même depuis 24 ans missionnaire avec son mari et qui a engagé là-dedans, bien sûr, les enfants aussi, etc. 24 ans de vie rien que pour le Seigneur. 24 heures sur 24 pour Dieu. Et il y a des gens qui ont fait encore plus, ils ont été jusqu'à mourir, à subir des martyrs pour Jésus. Pour la passion de Jésus. Pour l'amour de Jésus. Pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Ce matin, je voudrais on va partager aujourd'hui un message autour d'un personnage pour qui Christ a été aussi tout pour lui, qui a vécu la passion de Jésus, dans tous les sens du mot. Passion dans le sens d'un amour profond, d'un engagement total, inconditionnel, mais aussi passion parce que il en est mort, il en a souffert à cause de ça. Vous savez que pendant la période des vacances, je voudrais que nous puissions encore nous amuser avec la Bible. C'est pas s'amuser, hein. C'est quand même essayer de vous intéresser à la lecture de la Bible. Moi, je pense que c'est la clé de notre marche chrétienne. Je peux être bourré de connaissances sur Dieu. Je peux avoir une vie de prière incroyable. Mais si ma vie n'est pas basée sur ce qui est écrit, si pour moi dans ma vie, ce n'est pas la parole de Dieu qui fonde ma foi, qui fonde mes choix, ma vie, quelque part je suis mal barré. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je vais m'abuser, je vais me tromper. Je vais croire que je suis dans le bon alors que je suis complètement dans l'erreur. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé qu'on dise un truc de la Bible et puis, quand on a vérifié, zut alors. Je disais juste le contraire. Ça veut dire que la connaissance de la parole de Dieu est importante. Elle est là pour nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Vous savez, j'aime bien cette phrase de Jésus qui dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que la lecture de la parole de Dieu, la persévérance dans l'étude de la parole de Dieu est quelque chose qui va nous faire grandir spirituellement. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'invite toujours les membres de l'Église à prendre le temps pendant les vacances de prendre un livre biblique, de le lire jusqu'au bout pour apprendre. Dimanche passé, on a parlé d'un personnage parce qu'on a terminé notre livre de Sophonie. Hein. Donc, on a parlé d'un personnage, la belle Ruth. Elle n'est pas seulement belle physiquement, elle est surtout belle intérieurement. Nous avons parlé d'elle la fois passée. Ce matin, je vous propose un personnage qui s'est passionné pour Jésus, qui a fait de sa vie une passion pour Jésus. C'est l'apôtre Jean. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à vraiment la laisser imprégner nos vies, imprégner notre cœur. Que la parole influence nos choix, nos décisions. Elle influence notre vie, notre tempérament, notre caractère. Que tout cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Jean. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là, qui connaît à peu près la vie de l'apôtre Jean, qui connaît un peu l'histoire de Jean. Ah, j'en ai quand même une. Donc, tu pourras me contredire si jamais j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Hein? D'accord? Nous allons démarrer le texte avec... une petite présentation de lui, une carte de visite. 1 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 4. Et nous allons voir... Alors, c'est l'apôtre Jean qui écrit. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie et la vie a été manifestée, nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'apôtre Jean dit de lui-même dans ce texte qu'il est le témoin, qu'il a été le témoin de quelque chose d'incroyable. Il a été le témoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Un témoin, c'est pas seulement quelqu'un qui a entendu, qui peut relater un fait, mais un témoin, c'est celui qui a vécu le fait. Donc, qui a vu de ses yeux, qui a entendu de ses oreilles, qui a parfois touché de ses mains. Ça, c'est un témoin. L'apôtre Jean se présente comme le témoin de Jésus-Christ. Témoin privilégié, puisqu'il dit que lui, il a même touché le Seigneur. Il a même été très proche de lui. Témoin privilégié. Quelqu'un que ça vaut la peine d'écouter quand il parle de Jésus. Parce que au moins, on sait que lui, s'il parle de Jésus, il parle de quelqu'un qu'il connaît vraiment. Un homme qui a vu Jésus et qui sait donc de quoi il parle. Un homme qui a vu Jésus et dont la vie a été complètement chamboulée, transformée, changée. Un autre texte. Jean chapitre 21, le verset 24 à 25. La finale de l'évangile de Jean, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ce disciple. Jean s'est présenté déjà dans sa première lettre comme le témoin. Ici, il se présente comme le disciple. Le disciple qui va devenir l'apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé. Aujourd'hui, c'est frappant dans certains pays. Peut-être vous vivez ça moins ici en Europe et encore moins dans nos milieux évangéliques. Mais les Camerounais savent, parce que c'est la même chose qu'au Congo, ils savent très bien que le titre d'apôtre est parfois porté par des gens qui se disent apôtres, comme si c'était un titre de pasteur ou de etc. Mais l'apôtre, les apôtres, est un apôtre, c'est un envoyé. C'était un titre qui avait été donné aux 12 disciples de Jésus-Christ. Le temps, il est vrai que nous sommes dans le temps apostolique, parce que nous sommes encore dans le temps de la continuité du travail des apôtres. Mais bon, je ne dis rien, mais je pense que un ministère d'apôtre, au sens de ce que je vois comme un titre, une fonction, j'ai un peu de difficulté à comprendre ce que ça veut dire. Mais l'apostolat existe. Il y a des gens qui ont le don pour bâtir les églises, pour construire l'œuvre de Dieu et avancer avec ça. Il y a des gens qui ont le don encore aujourd'hui. Jean est donc un témoin, mais aussi un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le Seigneur. Celui qui imite le Seigneur, c'est celui qui fait comme Dieu, comme le Seigneur. C'est l'ouvrier qui apprend à faire comme son maître et qui un jour deviendra lui-même le maître, capable aussi de pouvoir transmettre l'art qu'il a reçu de son maître. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'école de quelqu'un. Jean était le disciple de Jésus-Christ. Il était à l'école de Jésus. Mais qui est Jean ? Je ne vais pas parcourir, je ne vais pas vous faire balader avec des textes bibliques. Hein. Je vais juste faire une synthèse des textes. Vous pourriez, dans vos lectures, assez aisément, voir les éléments que je suis en train de mentionner. Puisqu'après tout, c'est juste aborder un personnage pour voir en quoi est-ce que cet homme a été le témoin, le disciple, mais comment Christ a bouleversé sa vie. Jean, à travers sa vie, on voit l'œuvre de Dieu. Le mot Jean en hébreu veut dire, donc, Dieu fait grâce. Hein, Jean? Ça veut dire Dieu fait grâce, hein? Je suppose que ton papa t'a donné ce nom-là en pensant ça, hein? Jean est le petit frère de Jacques. Vous connaissez l'apôtre Jacques, qui était aussi parmi les disciples de Jésus-Christ. Et Jacques, Jean, c'est son petit frère. C'est son frère. Les deux, ce sont des fils d'un monsieur qui s'appelle Zébédée. Et ce Zébédée était un propriétaire, un entrepreneur, qui avait son entreprise de pêche. Il avait plusieurs barques qui sillonnait le Jourdain, et voilà, il faisait son commerce de pêche, et il avait donc dans son entreprise ses deux fils qui travaillaient avec lui, donc Jacques et son frère Jean. Leur maman s'appelle Salomé, et on raconte, la tradition raconte que Salomé serait la sœur de Marie, la mère de Jésus. C'est ce qu'on raconte. Et donc, il se pourrait que Jacques et Jean soient les cousins de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste commence à enseigner sur le bord du Jourdain, Jean se joint à eux. Il se joint à leur enseignement. Il se met à suivre les enseignements de Jean-Baptiste. En même temps qu'il suit ses enseignements, il est aussi, il continue ses activités de pêcheur. Et un jour, vous connaissez cette histoire, Jean-Baptiste qui voit Jésus qui passe et qui dit, voyez là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le texte biblique dit, à ce moment-là, les disciples de Jean-Baptiste le quittèrent pour suivre Jésus. Et parmi ses disciples, il y avait Jean. Et Jean va donc commencer à suivre le Seigneur Jésus à ce moment-là. Et à un moment donné, et c'est ce que nous allons voir, il suivait régulièrement, mais à un moment donné, Jésus va dire, « Toi, suis-moi. » Il y a là une rupture entre cet homme qui faisait une activité séculière et qui combinait ça avec le travail de Dieu, entre guillemets, avec le fait de suivre Jésus. Donc, il était toujours, faisait toujours son activité de pêcheur, mais en même temps, il suivait Jésus. Et là, Jésus lui dit, toi, suis-moi. Renonce à tout, laisse tout tomber, tu me suis. Et là, il se met à suivre Jésus-Christ totalement. Là commence un changement dans sa vie. Là, il y a un bouleversement dans sa vie. On peut voir le texte, Matthieu chapitre 4. Alors, 21, 22, c'est ça que j'avais dit, hein? Alors, de là, étant allé plus loin, il vit les deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Bouleversement dans leur vie, changement total, début de quelque chose qui commence. Vous savez comment était Jean-Baptiste, Jean avant? Comment Jean était avec son frère? Vous savez comment Jésus les a surnommés, pour montrer comment ils étaient ces gens-là? Jésus les avait surnommés les Boanerges. Boanerges, ça veut dire les fils de tonnerre, les fils impétueux. Pourquoi? Parce que Jacques et son frère Jean, ils étaient connus pour leur violence. Ils étaient impétueux. Ils étaient violents, ils étaient des gens qui ne se laissaient pas faire, qui revendiquaient. Et en plus de cela, j'aime bien Jean-Baptiste, hein, mais c'est Jean, on parle de Jean, fils de Zébédée. En plus de cela, Jean avait ce côté égocentrique, où il pensait d'abord à lui, d'abord à ses intérêts à lui, avant les intérêts des autres. Je vais juste évoquer deux faits qui vont vous montrer qu'effectivement, c'était quand même pas des gens faciles, en tout cas au début. Je parle de l'événement qui a eu lieu lorsque, mais peut-être qu'on peut voir ça, Luc chapitre 9, verset 49. Tu sais, et tu restes là-dedans parce qu'il y a le deuxième événement qui vient après. Oui, 49. Heureusement que j'ai Richard, hein, il est... Voilà, regardez ça. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Le texte hébreu dit que quand il dit « nous l'en avons empêché », c'est pas l'empêcher dans le sens de hey, « arrête, hein ». C'est sa peine si c'est dehors. Voyez, il a mis dehors. Mais il a fait. Il dit nous, bien sûr, parce que il a prouvé ça, il cautionne ça. C'était un homme impétueux, violent, qui ne supportait pas certaines choses. Verset 59, 52, verset 52 jusqu'à 56. Là, c'est un événement où ils vont visiter un village de Samarie. Et arrivé dans ce village-là, on va chasser littéralement Jésus. Alors, regardez ça. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, écoutez ça la prière, veux-tu que nous commandions le feu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Ça, c'est les boanerges, les fils du tonnerre. La réponse de Jésus, 55, verset Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Il les réprimanda. En disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et donc, ils allèrent dans un autre bourg. Voyez, deux petits exemples pour montrer la nature, le caractère de Jacques et de Jean. C'était des gens impétueux qui terminaient les affaires. Mais il faut dire aussi que c'était des fils d'un entrepreneur. C'est faire la pêche, diriger une entreprise de pêche n'était pas toujours aussi facile. Il fallait quand même être un peu fort, vigoureux. Physiquement et aussi mentalement, puisqu'il faut faire face à beaucoup d'enjeux, beaucoup de contestations, etc. Mais cet homme violent et égocentrique va devenir progressivement celui qu'on va appeler l'apôtre de l'amour, le disciple que Jésus aimait. Sa rencontre avec Jésus va le transformer progressivement. Petit à petit, ce Jean va devenir de plus en plus un homme qui va être doux et paisible, humble. Un homme qui va être aussi porté vers les autres. Jean est l'auteur des cinq livres bibliques. Vous connaissez les cinq livres. Il y a l'évangile de Jean, il y a les trois épîtres. C'est ça, les trois épîtres, première, deuxième, troisième lettre de Jean, et puis l'Apocalypse. Cinq livres de la Bible. Et vous remarquez que un des enjeux de ces cinq livres, c'est toujours la question de l'amour, la question de la communion intime avec Dieu, la question de l'intimité avec Dieu, la question de la proximité profonde avec Dieu. Jean-Baptiste, Jean, fils de Zébédée, a été transformé au contact avec Jésus et au contact avec ses enseignements. L'homme orgueilleux et qui voulait être bien en vue est devenu un homme humble. Souvenez-vous, Salomé, sa mère, va aller voir Jésus et va dire, écoute Seigneur, quand tu seras monté dans ta gloire, tu vas pouvoir mettre sur ton trône mes deux enfants. Jacques et Jean. Vous vous souvenez de ça? Et quand Jésus va leur dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon royaume. Celui qui veut être le plus grand doit se faire le plus petit est le serviteur de tous. Et il va lui dire, c'est là qu'il va, Jésus va prendre cette image avec le petit enfant qu'il va amener vers eux, en disant, celui qui fait du bien à un petit comme celui-ci, eh bien, il fait du bien à moi. Vous voyez, ça c'était Jean. Il rêvait de gloire. Il voulait être le patron. Le patron après Jésus-Christ. Vous voyez? Mais cet homme va être un homme qui va être tellement transformé dans sa relation avec Jésus. Mais comment Jésus a procédé pour travailler à cette transformation? Peut-être ça, c'est quelque chose qui peut nous aider nous-mêmes à nous dire comment je peux aider un autre à grandir et à devenir quelqu'un qui honore Dieu, qui aime le Seigneur. Jésus, vous avez remarqué, nous avons parlé de cet événement où ils ont dans le village des Samaritains et Jésus quand même les réprimande. Jésus était vrai. Il ne pouvait pas leur laisser faire des bêtises en disant « Ok, c'est très bien les gars, on oublie, on fait semblant d'eux. » Non. Quand ça va pas, Jésus pointe du doigt, « Tac, toi, je suis pas d'accord avec toi. » Il le dit. Il le dit avec amour, avec patience, mais il le dit. Aussi, quand la maman de Salomé vient, Salomé, la maman de Jacques et de Jean et Jacques vient pour demander qu'il s'assoie sur le trône avec Jésus, eh bien, Jésus répond par un enseignement. Il leur apprend quelque chose, un principe important du royaume, l'enseignement. Mais il y a une chose qui m'a frappé tout au long de mes lectures, le travail de Jésus va se faire par un travail de proximité. Il va être tout le temps avec Jean-Baptiste. Or, c'est fou parce que je me rends compte que je dis Jean-Baptiste après avoir dit Jean-Baptiste. Je devrais me rendre compte avant de dire Jean-Baptiste. Enfin bon, bref. Donc, il fait un travail de proximité avec lui. Remarquez, si vous regardez dans la Bible, dans les évangiles, vous remarquerez que un des disciples avec lequel Jésus partait un peu partout, c'est Jean, à la transfiguration. À Gethsémané. Enfin, on peut citer des tas de situations. Jean est toujours avec Jésus. Travail de proximité. Découvrir le maître dans son intimité. Pourquoi? Parce que ce n'était que comme ça que la nature forte, le caractère fort, fortement imprégné, le caractère orgueilleux, le caractère égoïste et impétueux de Jean pouvait changer au contact avec le maître au quotidien, en voyant ce que le maître fait, en voyant le modèle du maître au quotidien. La vie de Jésus, les choix de Jésus, les chemins de Jésus ont transformé la vie, les choix, les chemins de Jean. Au contact avec Jésus. Et ça, c'est peut-être un enseignement pour nous. Un enseignement important et intéressant pour nous. Savoir que si nous voulons être des compagnons pour des frères et des sœurs, pour les faire grandir spirituellement, c'est notre vie. C'est le témoignage de notre vie dont ils ont besoin. Comment nous sommes courageux pour faire face à nos problèmes? Comment nous réagissons devant nos épreuves? Comment nous faisons face à nos difficultés? Comment nous aimons quand ça ne vaut pas la peine? Comment nous tenons le coup dans l'épreuve? Comment nous choisissons dans les moments où les choix sont parfois cruciaux? C'est ça que les gens ont besoin de voir dans nos vies. Parce que ça va les marquer et ça va les pousser à faire les meilleurs choix pour eux-mêmes. La rencontre avec Jean, avec Jésus, va transformer la vie de Jean et va faire de Jean un passionné de Jésus. Il va s'engager, mais totalement, totalement pour Jésus et devenir ce témoin qui peut être fier de dire « Ouais, j'ai vu Jésus, je l'ai touché, j'ai parlé avec lui, je l'ai entendu, je sais de quoi il parle. Je sais quel est l'enjeu central de son message. Je sais qui est Jésus. Jean est mort à Éphèse sous le règne de Trajan, cet empereur qui a été remarquable dans sa façon de persécuter les chrétiens. Il a fait une vraie boucherie, ce gars-là. Et il est mort, vous savez que quelques années avant qu'il meure, il est mort à Éphèse, mais quelques années avant, il est resté à Patmos, sur l'île de Patmos, justement envoyé là-bas un peu comme un bagnard, hein, parce que à cause de l'évangile, hein, et c'est de là qu'il avait reçu donc les textes, les visions pour écrire l'Apocalypse. La tradition rapporte d'ailleurs qu'il s'est occupé lui aussi de cette église dont on parle dans l'Apocalypse. Donc, il s'en est aussi occupé comme un serviteur. Vous savez, il a laissé une très grande communauté, la fameuse communauté joannique, qui est une grande communauté des croyants. Aujourd'hui, on redécouvre un peu la communauté de Jean aujourd'hui, malheureusement avec une lecture avec laquelle malheureusement je peux pas être d'accord. Mais c'est vrai qu'on a redécouvert aujourd'hui cette entre guillemets communauté joannique et on dit que le message central de cette communauté, c'est l'amour. Bien sûr, parce que Jean-Baptiste Vous savez, je le fais pas exprès, hein, franchement. Jean est le disciple de l'amour, le disciple que Jésus aimait. Jean a laissé aussi des traces dans les vies des autres personnes. Voyez-vous, voyez comment, quand je suis reconnaissant de ce que j'ai reçu des autres, j'ai un cadeau à offrir à d'autres. Voyez, si j'ai beaucoup reçu des autres, j'aurais tendance, enfin, normalement, j'aurais tendance, si j'ai beaucoup reçu des autres, aussi à donner aussi beaucoup aux autres. Eh bien, Jean, il a beaucoup reçu de son maître, Jésus-Christ. Et lui-même a eu des disciples. Il a aussi eu à former des gens. Et des gens qui ont fait l'histoire de l'Église, qui font partie des pères de l'Église. Jean a eu comme disciples Polycarpe et Ignace, qui sont devenus tous les deux des évêques. Et ensuite, eux-mêmes ont transmis cela avec des témoignages sur Jean. Ce matin, je voulais juste parler et présenter un peu cet homme d'exception qui a orienté toute sa vie pour Jésus, qui a non seulement été le témoin d'une transformation intérieure de lui-même par le contact avec Jésus, mais qui a été lui-même un témoin pour atteindre d'autres personnes et leur parler de Jésus. Et voyez, cette transformation a été possible parce que Jésus l'a regardé d'une certaine façon. Jésus savait que c'était un fils impétueux, un fils de tonnerre, que c'était un nerveux, c'était un colérique. Ça n'a pas été un obstacle pour Jésus de prendre en charge cet homme. Jésus avait dans sa compagnie un certain Judas Iscariote, voleur comme pas possible, et pourtant, il a été avec lui. Jésus a rencontré des gens impossibles à vivre, impossibles à imaginer, des gens incroyables, hein, Zachée, je sais pas moi, Matthieu, le publicain, je sais pas moi, des gens infréquentables. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la puissance de l'amour, évidemment, avec l'œuvre du Saint-Esprit, a permis que les vies changent. Soyons de ceux qui aimons les autres sans les juger, en ne voulant qu'une seule chose dans leur vie, que Christ soit glorifié dans leur vie. Soyons de ceux qui aiment les autres pour que Dieu puisse être glorifié dans leur vie. Je ne vais pas dire, ne soyons pas des gens, genre, vous savez, les gens qui ont des longs cheveux, là, avec la barbe, là, qui vivent, qui refusent toutes les lois, qui sont interdits, il est interdit d'interdire, là, qui disent, voilà, on peut fumer, on peut faire tout ce qu'on veut. Je ne parle pas de ces gens-là. comment on les appelle, les hippies, voilà. Enfin, dans le temps, c'était les hippies, voilà. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cet amour-là, de peace and love, genre amour un peu, ouais, t'es mon frère, t'es ma soeur, je t'aime, moi non plus, etc. C'est pas ça que je dis. Moi, je parle d'aimer à la manière de Christ. D'aimer comme Christ a aimé. D'aimer les autres comme Christ a aimé. Un amour inconditionnel. C'est-à-dire un amour qui ne porte pas un jugement. Un amour qui aime et qui cherche le bien de l'autre. Jean l'a appris. C'était le même Dieu. Et il peut aujourd'hui travailler dans nos vies aussi de la même manière. Amen. Prions. Que ta parole, Seigneur, nous conduise et nous entraîne, Seigneur, dans ce défi incroyable qui est celui d'être ton disciple. Et non seulement ton disciple, mais quelqu'un qui peut vraiment vivre comme tu veux. Seigneur, tu avais montré beaucoup d'amour. Ta parole dit que, Seigneur, alors que tu allais quitter la terre, tu as aimé encore plus tes disciples encore, parce que tu es un Dieu d'amour. Accorde-nous que nous aimions, non pas à la manière de l'homme, non pas à la manière légère et fantaisiste, mais que nous aimions comme toi tu aimes. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Heureusement, nous savons le Saint-Esprit et la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Accorde que cet amour s'active, se mobilise, se mette en œuvre, en mouvement, pour que, oui, Seigneur, nous puissions aimer. Nous aimer, mais aussi aimer les perdus, pour les conduire à toi, les faire connaître Christ. Seigneur, merci pour les témoins, Seigneur, comme Jean. Merci pour des disciples comme Jean, Seigneur. Accorde que nous aussi, à ta suite, nous soyons des témoins et des disciples à ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen.